Bonjour, c'est Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Aujourd'hui, nous allons parler du prix Hermann Chatrian. C'est la 94e édition de ce prix qui est considéré comme le Goncourt Lorrain et qui a mis le pied à l'étrier à nombre d'auteurs comme Isabelle Flatten, Fabienne Jacob, Nicolas Mathieu, Joël Elgloff, Philippe Claudel et bien d'autres. On fête cette année la 94e édition du prix Hermann Chatrian. Et comme tous les premiers lundis de novembre, comme c'est la tradition, le comité Hermann Chatrian s'est réuni pour attribuer les deux bourses Lorraine et Histoire, ainsi que le prix Hermann Chatrian pour un roman. Donc.
À l'issue des délibérations, nous avons décidé de récompenser d'abord en bourse Lorraine, un roman graphique, c'est une première, le offert José Giovanni, Frédéric Brémeau, Paolo Raffaelli, très beau roman graphique, lauréat de la bourse Lorraine, je le rappelle, c'est ce roman graphique, le offert aux éditions PAC. En bourse Histoire, nous avons choisi de récompenser l'ouvrage de Léonard Dauphan, de nos collègues de l'Université de Lorraine, René d'Anjou, prince en Lorraine, prince important à la fin du Moyen-Âge, une biographie extrêmement documentée. Et puis, le nom que tout le monde attend, c'est bien sûr le lauréat du roman, c'est Étienne Kern pour son roman « La vie meilleure » qui est une évocation romanesque du docteur Émile Coué.
Voilà, les trois lauréats ont été proclamés et nous allons recueillir les propos de Philippe Martin, membre du comité, puis de la présidente du comité, Fabienne Henriot. Philippe Martin, avec vous, nous allons découvrir les lauréats des deux bourses du prix Hermann Chatrian, la bourse Lorraine et la bourse Histoire.
Il y a deux bourses, une bourse Lorraine qui traite plutôt de livres qui ont trait au terroir. On en avait un qui nous avait bien plu, c'est Cocteau, l'église Saint-Maximin de Metz, aux éditions du Parège. Très beau livre sur un lieu tout à fait emblématique, vraiment à découvrir.
Par Christian Schmitt.
Exactement. Et vraiment, c'est une réflexion sur le sacré. Très, très beau livre. Mais il n'est que deuxième, malheureusement pour lui. Le premier, c'est Le Offert. C'est un roman graphique. C'est un choix un petit peu étrange parce que le livre qui traite du Offert date de 1962. Il avait été adapté en 65 avec Lino Ventura sur Les Grandes Gueules et Bourville. Mais là, le livre est repris. Les auteurs du roman graphique n'ont pas vu le film et donc ils réinventent une adaptation du roman qui a une soixantaine d'années. Et ce roman, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'histoire d'un homme qui hérite d'une scierie au fin fond des Vosges. Comment faire vivre cette scierie? Et pourquoi ne pas donner leur chance à des repris de justice? Et là, il y a une logique terrible, c'est les repris de justice entre eux, les hommes entre eux, mais aussi les hommes avec la nature ou contre la nature. Et c'est une ode très très belle au courage des hommes dans la forêt. Et ce roman graphique, c'est justement l'occasion de donner un nouveau souffle à cette très très belle histoire, histoire d'homme, histoire de forêt et tout.
Vous parlez de roman graphique. Pour un lecteur lambda, il ouvre le livre, c'est une BD.
C'est une BD. C'est-à-dire que l'idée entre le roman graphique et la bande dessinée, c'est qu'à l'origine, l'écriture n'est pas la même. Et là, on a vraiment la réadaptation d'un roman. Mais certains romans graphiques sont des successions d'images avec une construction liée au texte. Hein, ce qui fait que quelquefois, certains romans graphiques, on peut se dire, bah tiens, on pourrait supprimer les images ou supprimer le texte, alors que là, on a vraiment une bande dessinée qui est une bande dessinée complètement linéaire et tout, avec uniquement un jeu sur le noir, le blanc et le gris, qui est extrêmement efficace. Parce que là, on se trouve plongé dans les forêts vosgiennes.
Qui est ce fameux prince René d'Anjou qui est l'objet du livre lauréat de la Bourse Histoire?
Alors, la Bourse Histoire, on a hésité entre plusieurs ouvrages. Il y en a un qui est sur les expériences scientifiques, alors il faut mettre des grosses guillemets à scientifiques, que les nazis ont fait au camp de Nassweiler-Strotthof, où ils ont créé une salle d'extermination de cobayes humains qui était envoyé à l'université de Strasbourg pour des études qui se voulaient scientifiques mais qui sont rien du tout. Du coup, ce livre paru aux éditions Talendier est une occasion de revenir sur ça et de revenir comment des médecins ont pu torturer des gens, tuer des gens, exterminer des gens pour faire des collections humaines. Et ce livre a été classé second. Le premier, c'est René d'Anjou, prince en Lorraine. Alors, on est à la fin du XVe siècle. René d'Anjou a tout essayé, il a essayé de contrôler l'Anjou, il a essayé d'aller allé en Hongrie, enfin bref, c'est un prince européen. Et finalement, c'est en Lorraine qui va réussir à instaurer quelque chose, puisque c'est le créateur des duchés de Lorraine. C'est lui qui va créer l'État de Lorraine tel qu'on le connaîtra à l'époque moderne, avec un mélange extrêmement original. C'est un prince français de la vallée de la Loire. Donc il ramène tout le modèle français, mais en même temps, comme il a des désirs aussi d'expansion vers l'Est, c'est un prince allemand, c'est le premier qui réussit à faire ce croisement de deux cultures en Lorraine. Et du coup, la fameuse croix de Lorraine n'est que la croix d'Anjou qui l'a ramenée. C'est lui qui nous ramène la croix de Lorraine, qui n'existait pas un symbole local avant lui. Et le livre est remarquablement construit parce qu'il nous présente non seulement la vie de ce prince, mais aussi comment on le connaît. C'est-à-dire quel est le travail de l'historien. Il est passionnant. De Léonard Dauphan, qui est enseignant, professeur à l'université de Lorraine, site de Metz.
Et la maison d'édition ?
Classique Garnier.
Bonjour, je suis Fabienne Henriot, présidente du comité Erckmann-Chatrian. Il y a quelques minutes, nous avons décerné le prix, après une matinée de délibération, au roman d'Étienne Kern, La vie meilleure, publié aux éditions Gallimard. Le titre cache l'histoire du bon docteur Coué, Émile Coué, qui a vécu une grande partie de sa vie à Nancy, où il a professé l'optimisme avec une sorte d'enthousiasme communicatif, la fameuse méthode Coué qui permet d'aller mieux par l'auto-persuasion. Il est réel, Coué, bien sûr, mais ce roman, il en fait vraiment un personnage roman tout à fait intéressant et crédible.
Émile Coué a vécu et est décédé à Nancy. Il n'y est pas né. Tout le monde connaît ou a entendu parler de la méthode Coué, mais sa vie nous est totalement inconnue.
Effectivement, et moi la première, avant d'ouvrir ce roman, il était pharmacien de formation, il n'a jamais été docteur, donc c'est pas le docteur Coué comme on l'appelle parfois. Il était pharmacien en Champagne, du côté de Troyes, et puis bon, diverses raisons familiales l'amènent à Nancy, notamment via son épouse. Et c'est en Champagne qu'il commence à recevoir des gens pour des séances d'auto-persuasion, et puis il va développer progressivement une sorte de philosophie pour laquelle lui-même est en fait en permanence investigation, c'est-à-dire qu'il n'a pas de certitude, simplement il constate que ça marche. Il constate que si on invite les gens à trouver en eux la ressource pour aller mieux, et non pas dans des choses qui pourraient leur arriver et qui feraient qu'ils iraient mieux, mais simplement qu'ils ont peut-être eux-mêmes, en eux-mêmes, ce qu'il faut pour aller mieux, eh bien, ils vont aller mieux. Il teste ça sur sa famille, ça marche pas forcément très bien, il y a le décès de sa belle-sœur, notamment, où ça n'a pas marché, il doit régler ça avec son épouse, et c'est des pages très touchantes, vraiment très très belles. Et puis par contre, il y a plein de gens pour lesquels ça fonctionne bien, il finit par être invité dans le monde entier, pour expliciter sa technique, et il a été extrêmement connu de son vivant, bon, aujourd'hui on en sourit un petit peu de cette méthode qui paraît un petit peu simpliste, mais en réalité, il a eu vraiment une heure de gloire qui est rappelée par ce roman.
Au deuxième tour, lorsqu'il ne reste que deux livres en lice, celui-ci a obtenu 7 voix sur 9. Qu'est-ce qui a donc séduit le jury ?
Effectivement, on a terminé avec 7 voix pour ce roman d'Étienne Kern. Qu'est-ce qui a séduit le jury ? Je dirais c'est la capacité qui n'est pas donnée à tout le monde de transformer un personnage historique en personnage de roman, sans que ça tourne à la biographie savante, parce que par ailleurs, c'est un livre qui est très bien documenté. Alors, l'auteur revendique des libertés, il a bien le droit de le faire, avec la réalité historique, pour les besoins de la narration, de la fiction. Et ce titre-là, c'est vraiment un roman. Finalement, qu'il ait existé ou pas, quand on referme le livre, ça n'a aucune importance, parce que c'est vraiment un très beau personnage, très crédible, très touchant, avec une histoire, avec une manière de penser, avec des doutes, avec des fragilités qui sont tout à fait sensibles. Et ce qui a beaucoup plu aussi au jury, c'est le fait que la manière de raconter l'histoire soit en parfaite adéquation avec l'histoire elle-même. C'est-à-dire que le style de l'auteur est tout imprégné de cette bonhomie, de cette sérénité, de cette rondeur qu'on imagine à Émile Coué et sa manière de persuader les gens que tout va finir par aller mieux.
De quelle manière le roman dresse-t-il un parallèle avec la quête de l'auteur lui-même, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure ?
Alors, on voit l'auteur s'emparer du personnage, mener un certain nombre de recherches, notamment d'archives, se rendre sur les lieux, essayer de comprendre à quoi pouvait ressembler Nancy à ce moment-là, et restituer c'est aussi les impasses, que moi je suis historienne et je vois très bien de quoi il parle. Parfois, on tire sur un bout de la pelote, mais il n'y a rien qui vient de l'autre côté, parce que c'était pas la bonne piste. Donc, ces impasses, ces fausses pistes, et puis à l'inverse, ce qu'il faut reconstituer par l'imagination quand justement les éléments historiques ne sont pas là. Alors, il a utilisé des archives, il a utilisé la presse, il a rencontré aussi des descendants, etc. On voit qu'il y a un vrai travail qui a été fait. Mais ça fait aussi partie du roman. C'est-à-dire qu'à la limite, peut-être qu'il ne l'a pas fait ce travail, mais il s'est construit lui-même comme auteur en train d'écrire, en train de chercher de la matière pour son roman. Et ça, c'est vraiment très bien fait. Ça aurait pu être très artificiel, et en fin de compte, ce n'est pas le cas.
Les délibérations ont commencé ce matin avec 5 romans. Il y en avait 2 ensuite. Et vous pouvez nous parler peut-être du deuxième, celui qui est arrivé à la mauvaise place.
Oui, alors c'est la mauvaise place, mais sincèrement, arrivé au commencement de ce deuxième tour, en réalité, ce n'était pas si facile de les départager. Il s'agit du roman d'Arnaud Friedman qui s'appelle L'invention d'un père, paru à la Manufacture des Livres, un éditeur qui travaille bien, qui nous envoie souvent de très très beaux romans. On est aux antipodes d'Émile Coué et de sa méthode. C'est une histoire tragique d'un homme à l'agonie, un homme jeune, d'une trentaine d'années, qui décide de passer les 10 ou 15 derniers jours qu'il lui reste à vivre avec son bébé. Sauf qu'il s'est séparé de la maman du bébé et qu'il a complètement négligé l'enfant depuis sa naissance. Donc en fait, il doit le kidnapper préalablement et il l'emmène en forêt, dans un endroit lié à un souvenir d'enfance. C'est une petite cabane très inhospitalière. C'est là qu'il va essayer d'apprendre à être père, puisqu'il ne sait pas comment on fait. Il ne s'est pas occupé de son enfant depuis les 7 mois qu'il a cet enfant. Il apprend à être père et il apprend à son enfant à être aussi son enfant, par une transmission, notamment par voie de lettres, qu'il lui écrit quand il en a la force, qu'il laisse dans la cabane. On devine dans les dernières phrases, il est en train de mourir. Mais il aura laissé ça, il aura laissé un lieu, il aura laissé des lettres pour que son bébé, Béatrice, puisse un jour peut-être trouver en elle des réminiscences de ses journées passées dans la clairière et la marque de ce père qu'elle n'aura pas vraiment connu.
Ce prix Herman Chatrian, c'est un peu la mise en valeur du début d'un parcours littéraire.
Oui, alors il faudrait regarder ça de près, mais on a beaucoup d'exemples en tête qui permettent de dire que des romanciers qui aujourd'hui ont une aura importante, nationale, sont des auteurs que nous avons découverts les premiers. Ça c'est vrai pour Maria Pourchet, pour même Philippe Claudel, même si ça remonte maintenant à plus de 20 ans, Nicolas Mathieu plus récemment, voilà, des auteurs qui aujourd'hui sont vraiment de grands auteurs français. Eh bien, on est quand même fiers de se dire qu'on a été un peu les premiers à les remarquer, à leur décerner un prix, qui était peut-être un de leurs premiers prix, dont ils se souviennent généralement ensuite avec une certaine émotion. Donc voilà, je pense qu'on fait notre travail de cette manière-là, en identifiant des parcours, des auteurs qui émergent et qui ont une belle carrière devant eux. En tout cas, on leur souhaite.
Merci.
Merci à vous.
C'était Christophe Prévost pour RPL, la radio du Pays Lorrain. Bonne journée, à bientôt.